France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Lina Koudré. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Como nous parlera d'une bande dessinée coréenne, Les Daronnes, de Yeong Shin-ma. 19h45, Affaires en cours par Marie Sorbier. Le palais idéal du facteur cheval continue à fasciner les artistes contemporains. Frédéric Legros, directeur de ce palais idéal, nous expliquera pourquoi. 19h50, Affaires à suivre. Comme chaque lundi, direction l'étranger, ce soir, l'Espagne, avec notre correspondant Mathieu de Taillac. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron, avec Florent Bujon à la prise de son. Bonsoir Lina Koudré.
Bonsoir.
Vous serez dès demain et jusqu'au 17 février à l'affiche du Théâtre des Bouffes du Nord dans Perdre son sac, un monologue écrit pour vous par Pascal Rambert, qui en assure la mise en scène. Dans un peu plus d'un mois, le 15 mars sortira Auria de Mounia Medour. Peu après, le 5 avril, ce sera autour du film Martin Bourboulon, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, avant le deuxième volet prévu en décembre prochain. On vous a récemment vu dans Nos Frangins de Rachid Bouchareb, dans Novembre de Cédric Jiménez, qui vous vaut une nomination au César, catégorie actrice dans un second rôle. Bref, il y a beaucoup de bonnes raisons de vous accueillir, ce qui va nous permettre d'essayer d'en savoir un peu plus sur vous, sur votre parcours, sur votre façon de travailler. Dire que vous n'aviez qu'un an et demi, lorsque vos parents ont dû quitter l'Algérie au cœur des années noires. Il y a un mois, au moment de la sortie du film Nos Frangins, je recevais Rachid Bouchareb dans cette émission. Écoutez ce court extrait.
On sait chaque jour dans notre histoire qu'on fait partie de cette population immigrée, même si on est né en France. Et à l'époque, c'était très très fort cet espace qui était défini dans lequel on devait évoluer. Donc bien sûr qu'après ça reste, bien sûr qu'après c'est ça qui me nourrit pour faire tous les films que j'ai faits. C'est passé par toute cette histoire de mon enfance dans la banlieue parisienne, et puis d'être enfant d'Algérien à l'époque. La guerre d'Algérie se terminait, octobre 61, l'indépendance, puis les années suivantes, quoi, voilà. Ça, on est marqué par ça.
Vous-même, Lina Koudré, vous avez un lien très fort avec l'Algérie. Comment est-ce que vous avez pris conscience, vous, de l'importance de garder ce lien, de le cultiver, en apprenant notamment aussi la langue arabe ?
J'en ai pas pris conscience, finalement. C'est parce que j'allais souvent en vacances là-bas et que j'étais très liée et proche de mes cousines, de mes cousins, de mes tantes, mes oncles, mes grands-parents. Donc c'était toute ma famille. Comment ne pas se sentir proche de sa famille, des siens? Forcément, ça allait de soi, ça faisait partie intégrante entièrement de ma personne. Et puis c'était souvent lié à un souvenir heureux aussi, l'Algérie. Et voilà, le climat, les vacances, c'était très... ouais, j'étais très attachée, je l'ai toujours été. Et puis en grandissant, et puis je me suis évidemment posé la question de pourquoi moi j'étais pas encore là-bas. Qu'est-ce qui s'était passé dans ma vie pour que tout le monde reste et que nous on soit partis. Et voilà, c'est en prenant aussi conscience de tout ce qui était plus grand que ça, politiquement, que la situation du pays et puis le rapport, la relation entre l'Algérie et la France. Qui était en fait complètement mon identité. Et j'ai jamais renié l'un ou l'autre. J'ai toujours fait avec les deux sans vraiment me poser de questions. J'ai jamais caché mon amour pour mon pays d'origine et jamais caché mon amour pour mon pays actuel. Donc j'ai pas vraiment d'explication en fait.
C'est naturel. Hein.
C'est naturel.
Construction, on va dire, sensible, émotionnelle. Les années lycées, qui sont peut-être pas celles que vous préférez, il n'empêche qu'il y a la découverte du théâtre, la découverte de l'art, de l'histoire de l'art. Il y a un nouveau monde aussi qui s'ouvre à vous dans ces années-là.
Oui, complètement. J'ai eu la chance d'aller dans un lycée à Saint-Ouen. Le lycée Blanqui, et d'avoir des professeurs assez incroyables, Madame Binet, Madame Gédy, Madame Laborie, qui ont été mes profs de littérature et d'histoire de l'art et qui nous ont, ouvert des immenses portes. J'ai été pour la première fois voir une exposition au Grand Palais avec ma classe. Il s'est passé vraiment des trucs forts à ce moment-là, durant ces 3 ans. Des voyages dans ce sens, des voyages où on allait visiter l'architecture d'autres villes. Enfin, voilà, on nous permettait d'aller plus loin que ce qu'on connaissait, ce qu'on nous permettait de connaître. Là, c'était des professeurs qui, voilà, des femmes fortes qui avaient décidé qu'elles allaient tout nous donner. Et j'ai été chanceuse parce que c'est vrai que j'ai eu des professeurs incroyables. Et oui, il y a une porte qui s'ouvre à ce moment-là et je tombais perdument amoureuse de l'art et de l'histoire de l'art parce que j'ai eu la chance de pouvoir étudier l'architecture autant que la peinture, autant que la musique, autant que, voilà, que la sculpture, que tous les arts. Oui, parce que c'est histoire de l'art et en fait ça a changé maintenant,
c'est l'histoire des arts. Ouais.
Et puis le cinéma. Et voilà, et là il y a un vrai déclic parce que le cinéma ça me parle à un endroit beaucoup plus profond lié à l'image, à un écran. Et moi j'avais eu l'habitude de voir mon père sur un écran, enfin l'habitude, j'avais déjà vu mon père sur un écran. Et là, il s'est passé un truc un peu particulier, autre que tous les arts que j'avais eu l'occasion de croiser. Et je crois que le déclic, il se fait un peu, oui, à ce moment-là.
Parce que votre père, il vous a appris aussi, non seulement vous l'avez vu à l'image, mais il vous a appris aussi à analyser, à savoir ce que c'est du montage, qu'est-ce que c'est qu'un travelling, qu'est-ce que c'est à la fois la technique et puis la grammaire du cinéma.
Complètement. La technique, la grammaire du cinéma et de la télévision aussi. Moi, je me suis souvent retrouvée en salle de montage avec mon père pour ses émissions, des émissions qu'il produisait ici à Paris, en Allemagne. Et en fait, cet univers, je le connaissais. J'avais pas peur d'une caméra. Je sais que mon père, pendant un moment, on allait faire des ventes aux enchères où on rachetait des caméras de France Télévisions, etc. Donc, on avait des fois des caméras dans le salon. Et c'était pas un objet qui me faisait peur. Au contraire, j'avais l'impression que c'était un objet qui faisait partie de la famille et que j'avais déjà tous les codes. Donc, peut-être c'est aussi ça, c'était la facilité aussi, peut-être.
Mais il n'empêche que même si vous vous inscrivez en cinéma à la fac, côté théorique, c'est pas ce qui vous intéresse le plus, Sina Koudri, et que vous allez finalement faire des études au département art et théâtre de l'Université de Vincennes-Saint-Denis. Il y aura ensuite l'école du TNS, mais à quel moment l'envie de la pratique, en fait, l'envie de devenir comédienne, arrive chez vous ?
Alors, pour être très honnête, on avait fait du théâtre au lycée, en plus de l'histoire des arts. Mais ça restait, c'était encore, on s'était bien amusé. Je me souviens, on avait fait la cantatrice chauve de Ionesco au bac, et c'était génial. On avait adoré faire ça, etc. Mais évidemment, tant qu'on n'a pas vu de nos propres yeux quelqu'un de notre entourage, ou alors quelqu'un qu'on a croisé dans la vraie vie qui fait ce métier, on se rend pas compte que c'est un métier. Pour moi, c'était pas un métier, être actrice, c'était vraiment un rêve, quoi. J'imaginais pas que c'était possible, pas du tout. Et en fait, en me disant, je veux faire. Alors, le cinéma, c'était beaucoup plus concret pour moi. Je disais, peut-être, je vais être réalisatrice, peut-être. D'avoir été confrontée à autre chose m'a fait remarquer que ça me manquait de faire du théâtre. Et c'est à ce moment-là, c'est ces années-là où je tâte un peu le terrain, où je vais en médiation culturelle à la Sorbonne Nouvelle, et je vois que je veux pas trop faire d'histoire de l'art, que j'ai envie de passer l'école du Louvre, et que je vois que j'ai pas les capacités encore, alors qu'il faut que j'aille faire peut-être une classe prépa, et que j'ai vraiment pas envie de faire une classe prépa. Alors je vais faire du cinéma, et je me rends compte que c'est pas ça, voilà. C'est ces années-là où on se cherche vraiment, ça a duré 3-4 ans, après le bac, où à côté, moi, je travaillais et j'ai eu une vraie vie passionnante auprès de jeunes de 15 ans, 16 ans, et qui m'avaient pris beaucoup d'énergie et me donnaient beaucoup d'amour. Et en fait, au bout de 4 ans, j'ai eu le temps d'arriver à maturité.
Les deux.
Les deux. Et me rendre compte qu'en fait, je voulais jouer.
Ben voilà. Donc le TNS, bon, il faut y rentrer, vous y entrez, mais vous finissez pas le cursus parce qu'il y a un premier rôle important dans Les Bienheureux de Sofia Djama. Vous remportez le prix d'interprétation féminine à la section Horizonti à la Mostra de Venise en 2017. Comment est-ce que vous vivez, Lina Koudri, ce moment de bascule, quoi ? Ça y est, c'est parti, là.
Oui, alors déjà, c'était incompréhensible pour moi. Je me souviens que j'étais en train, j'avais enregistré mes bagages, passé la douane. J'étais vraiment en train d'arriver. Je venais de m'acheter une bouteille d'eau à une boulangerie à l'aéroport et j'étais en train de monter dans l'avion. Et on m'a appelé pour me dire de surtout pas embarquer. Et c'était la période des attentats. Moi, j'avais eu peur. Je m'étais dit, ah non, il y a un attentat à l'aéroport et tout. Faut pas aller à Paris. En fait, pas du tout. C'était juste que j'avais eu un prix. Et quand on m'a dit, t'as eu un prix, je pensais encore vraiment jusqu'à tard dans la nuit que c'était qu'on avait eu un prix pour le film. Et il a fallu que je croise Rebecca Zlotowski à la terrasse de l'hôtel qui revenait de... Enfin, elle venait de débattre avec le jury. Elle faisait partie du jury d'Horizonti cette année. Et c'est Rebecca qui m'a dit, mais non, en fait, tu as le prix de la meilleure actrice. Et je ne comprenais pas. Donc oui, c'est un moment de bascule, mais en même temps, dans une incompréhension totale, un flou total. Donc quand c'est comme ça, c'est vraiment, on a du mal à... Bah, en fait, à y croire, tout simplement. Donc j'y ai pas cru pendant longtemps. Et c'est étonnant, parce que quand je suis rentrée en France... je m'étais dit, j'avais eu peur, je m'étais dit, les gens vont savoir, ça va plus être pareil et tout, et personne ne savait. Et donc, en fait, ça m'a un peu redescendu. Je me suis dit, bon, bah, c'est bien, personne ne sait, en même temps, c'est ce que tu voulais, en même temps, peut-être que t'aurais eu envie que les gens le sachent un peu quand même. mais ça, il n'y a pas eu de changement radical vraiment à ce moment-là.
C'est avec Papicha, ensuite.
Avec Papicha, mais même dans le cinéma, les gens ne savaient pas que j'avais eu un prix. Les directeurs de casting, les gens ne savaient pas, en fait. Donc j'ai continué de faire comme ça et voilà.
Bon, César du meilleur espoir féminin pour Papicha, ça évidemment, les directeurs de casting sont au courant. On va reparler de Mounia Medour dans un instant parce que il y a un nouveau film depuis, mais il y a d'autres films qui vont suivre évidemment Lina Koudry, très différents. Parmi eux, celui qui avait reçu notamment le prix France Culture Cinéma des étudiants de 2021, c'est Gagarine, très beau film de Fanny Liattard et Jérémy Trouille. Dans ce cas-là ou d'une façon générale, qu'est-ce qui fait que vous acceptez ou non un rôle, une proposition?
On m'a beaucoup posé cette question, mais c'est très instinctif, c'est ce que je réponds tout le temps, que quand je lis un scénario et que je m'imagine en train de le jouer, il y a de grandes chances pour que je le fasse. Et si je ne m'imagine pas en train de jouer, il y a aussi... alors moi, je suis très lente, je lis très doucement, j'ai pas de... Donc il y a aussi le temps de laisser à mon cerveau la place pour une histoire, je sais pas comment dire. C'est-à-dire j'ai besoin de temps pour que ça s'imprègne doucement, puis de relire une scène et puis de m'imaginer. J'aime beaucoup apporter aussi à certaines scènes, j'aime bien quand les réalisatrices et les réalisateurs me permettent d'ajouter ma petite touche. Donc j'ai des idées. Quand ça commence à fleurir, en fait, c'est tout simple. C'est que c'est bon, mais j'ai pas une bonne raison, je sais pas.
C'est une très bonne raison. Une fois le projet en route, tout reste à faire, cela étant. Alors, vous allez écouter une collègue, votre marraine au César 2020, Marion Cotillard, qui parle de son travail, justement.
J'ai eu l'expérience sur des films où il fallait que techniquement je relève vraiment un défi de langue ou d'accent. Et on peut travailler des heures, des mois sur un accent polonais, par exemple, mais il prendra toute son ampleur quand on va y mettre l'émotion et quand on va y mettre, quand on va abandonner le travail, quand on va passer au-delà de la technique. Donc en fait, c'est un mélange de choses. C'est la technique va être transcendée par l'émotion, mais l'émotion va pouvoir être aussi transcendé par la technique. Donc c'est
au risque.
Voilà, faut mettre tout dans le shaker.
Oh, y a quoi dans le shaker de Koudry?
Non, c'est très juste. J'adore entendre Marion parler de ce métier parce que je trouve qu'elle a une analyse hyper juste et simple, sans complexité finalement. Elle arrive à mettre des mots sur les choses. Je l'ai beaucoup écoutée et surtout... Je l'en ai beaucoup parlé, notamment de ces accents, de ce travail, etc. Très technique. Dans le checker, je crois que, comme elle dit Marion, il y a tout le travail qu'on fournit en amont. La confiance qu'on fait aussi au metteur en scène et à la metteuse en scène qu'on a en face, quoi, les yeux de l'autre, parce que on a un juge et on a besoin de lui faire confiance. Et tout l'inconscient, tout ce qu'on ne contrôle pas, et l'émotion, bien sûr. L'interprétation, finalement, comment on s'accapare. Mais moi, je suis fascinée par Marion parce qu'elle a cette capacité à, à incarner vraiment. Et chaque film que je vois d'elle, j'ai vraiment l'impression que c'est une question de vie ou de mort et que c'est elle. Je me pose pas la question. J'oublie que c'est Marion. Mais vraiment, c'est des... Oui, voilà, bah, comme elle a dit, on met tout dans le shaker et puis on croise les doigts en espérant que ça marche, quoi.
Alors, beaucoup de choses dans le shaker pour Auria, qui sort au cinéma le 15 mars prochain, un nouveau film de Mounia Medour, avec qui vous aviez déjà tourné Papicha. Cette fois, on est dans l'Algérie d'aujourd'hui. Il s'agit une nouvelle fois de parler de la place des femmes, de la violence des hommes, comment le collectif peut faire face à cette violence, notamment ici, grâce à une pratique artistique, en l'occurrence la danse. Alors, on imagine que là, dans le shaker, il y a une, parler de technique, mais qu'il y a une longue préparation physique, bien sûr, pour la danse, mais aussi ce qui concerne les chocs post-traumatiques, qui concerne la rééducation et puis l'apprentissage de la langue des signes. On se dit qu'un rôle pareil, ça doit changer son interprète. Est-ce que c'est le cas pour vous avec ce film ?
Oui, ce rôle, il m'a beaucoup changé, ouais. Peut-être même plus que Papicha. Oui, parce qu'on a commencé à répéter en janvier et on a tourné en octobre.
Oui.
Et à l'intérieur de ces 9 mois, il y a eu de janvier à mars 3 mois intensifs de danse de 10h à 18h du lundi au vendredi. Ma coach et moi, Ajiba Fami, excellente chorégraphe et excellente danseuse. Donc voilà, elle m'a... Et il y a beaucoup le mimétisme aussi, je me rends compte, parce que c'est elle qui me disait, c'est marrant, tu commences à t'habiller comme moi, tu commences à parler comme moi. Mmh. Et j'étais obsédée, complètement obsédée par les danseuses classiques, complètement obsédée par leur poids, par leur alimentation, par leur manière de travailler, les heures qu'elles passent, et puis aussi tous les travers de la danse classique, comment on est obsédé par son physique. Je commençais à devenir obsédée par mon physique. S'il y avait un pet de gras, je pétais un câble. Et c'est ma chorégraphe qui est devenue mon amie qui me disait, c'est trop drôle, Lina, tu commences vraiment à me ressembler. Et j'ai compris qu'à ce moment-là, il y avait, alors que moi, je disais toujours, ah, moi, je suis pas forte en mimétisme, j'ai pas fait vraiment de clown, j'ai pas fait vraiment de mime. C'est pas trop mon truc, finalement. Il y a des acteurs pour qui ça marche. Moi, je me vois pas changer de démarche, changer de voix, etc. Et en fait, malgré moi, parce que j'avais conclu que c'était pas pour moi, donc je m'y intéressais même plus. Et malgré moi, je me rends compte qu'avec ce métier, en fait, on plonge complètement dans l'autre. Mmh. Et effectivement, Auria, ça m'a beaucoup modifiée. J'ai appris à jouer sans parler, déjà. J'ai beaucoup dansé, j'ai appris à monter sur pointe, j'ai fait beaucoup de sport, etc. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais oui, la langue des signes, c'était encore un autre step. Et puis surtout, parce qu'on peut apprendre à faire des signes avec la main, mais interpréter. Parce que parler la langue des signes, c'est pas juste faire des signes avec ses mains, c'est l'émotion, enfin, c'est interpréter aussi ce qui se passe dans le visage. Il y a vraiment... c'est lié. Et donc, il fallait, au-delà des signes, que ça rentre à l'intérieur et puis que ça ressorte. Donc voilà. Et moi, je trouvais que c'est des têtes qu'on fait pas dans la vie. Et je trouvais que c'était surjoué. Donc, il fallait redoser. C'était vraiment tout un truc. Qui, à la fin, effectivement, quand j'ai fini le tournage, je me suis dit, oh putain. Je me suis dit, vraiment, là, j'ai beaucoup donné et surtout, elle m'a beaucoup donné. Et je crois que, ouais, c'est un des rôles qui, pour l'instant, me reste le plus.
Hâte de cette sortie le 15 mars. Mais j'essaie déjà de prendre date, sans transition. Et avant de parler de théâtre, votre choix musical, Lina Koudry, qui s'est porté sur un morceau de SDM qui figure dans son nouvel album, sorti il y a un mois. SDM qui vient de faire un featuring sur un morceau dans le nouvel album de Aya Nakamura, si on ne sait pas encore qui c'est. Vous avez choisi Mr. Ocho. Alors Ocho, hein, c'est 100-8. 92.
Voilà.
Qui ouvre l'album de SDM.
Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi 92?
Bah, le département.
Ah oui, voilà.
Et SDM, vous savez pourquoi?
Ah non, dites-moi.
Bah, c'est Saddam.
Ah bon?
C'est son premier nom.
C'est vrai, je ne savais pas.
Eh ben voilà, vous me demandez, Lina Koudry, il n'y a pas de souci. Vous avez choisi Mr. Ocho, pourquoi ce choix-là?
Parce que Moi, j'écoute énormément de rap français, et depuis toujours, et c'est ma culture, et j'ai grandi là-dedans, et ça me fait énormément de bien. J'ai beaucoup dit que j'écoutais ça avant de monter sur scène, des gros sons de rap qui me donnent la pêche, et ça faisait très très longtemps que j'avais pas entendu un son comme celui-là. C'est-à-dire qu'il arrivait comme une vague dans ma vie. C'est un ami qui m'a dit, tiens, écoute ça, écoute l'album d'SDM, mais écoute surtout celui-là. Et bravo à lui. Je trouve que c'est un classique et que je suis bien heureuse que des jeunes proposent des classiques aujourd'hui et qu'on n'oublie pas. Pour moi, c'est l'essence du rap. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a du flow, il y a du texte, il y a une instru qui déchire, il t'embarque et voilà, il y a des frissons. Donc j'adore cette musique.
Allons-y pour les frissons avec SDM.
Malheureusement, je sais pas faire semblant d'aimer. Plaire aux autres, ça fait longtemps j'abandonnais. Le ciel m'en est témoin, j'ai tant donné. Pour eux, je suis qu'un artiste de la pandémie. On m'a toujours dit respecte les aînés, mais je fais comment quand les aînés c'est des haineux. Je les baisse, je sais pas faire semblant d'aimer. Dans la street, poto, personne m'a parrainé. SDM, sans moi 8. Je suis tout en haut, je suis dans la suite. Je peux tout expliquer sur un hit. Je peux tout expliquer sur un 8. SDM, sans moi 8. Je te dis que je peux tout expliquer sur un hit. Je peux tout expliquer sur un 8. Après les autres, je ne suis qu'un mec. À écouter mes profs, poto, la vie d'SDM, c'était pas ça. À écouter mes profs, j'allais finir par terre en manque de ma PSA. Mais leur rêve s'est arrêté, maintenant je fais des ronds, chaque leur salaire tend de la PSA. Je les baisse, demande aux autres faire, tu le sais, je les fais. Devant l'OPJ que j'ai nié les faits. J'ai dit au ciel tout ce que je veux, l'as de billets, je voulais toucher. C'est haut le bonheur, moi-même à pied, j'y vais. Bonheur, richesse, je veux tout. Je me suis couché tard, le veto, chaîne la cache, je suis intraitable, j'ai le veto. Quand t'es, je laisse pas de trace sur le méton. Poto, t'en trouves pas quand tu vas détailler. Ya, ya, ya. Des fois, je suis grave indécis. J'avais pas tard dans la nuit, c'est le chétan qui m'a amené dans son. J'ai grave avancé, à la rue, je suis grave attaché. Maintenant, c'est moi le grand qui influence les jeunes à bosser. Malheureusement, je sais pas faire semblant d'aimer. Plaire aux autres, ça fait longtemps j'abandonnais. Le ciel m'en est témoin, j'ai tant donné. Pour eux, je suis qu'un artiste de la pandémie. On m'a toujours dit respecte les aînés, mais je fais comment quand les aînés c'est des haineux. Je les baisse, je sais pas faire semblant d'aimer. Dans la street, poto, personne m'a parrainé. SDM, sans moi 8. Je suis tout en haut, je suis dans la suite. Je peux tout expliquer sur un hit. Je peux tout expliquer sur un 8. SDM, sans moi 8. Je te dis que je peux tout expliquer sur un hit. Je peux tout expliquer sur un 8. Après les autres, je ne suis qu'un mythe. Dans la ciudad. Tout seul, je me suis fait avec mes gars dans la ciudad. Maintenant ça va, je veux plus de la vie d'avant. Et des fois, je pense à la mort, je pense à mon feat avec Biggie Tupac. Parano, je vois des ennemis tout part. J'ai plus à regretter quand le coup part. Eh, la détente, on charbonnait quand on séchait les cols. Type, on avait déjà la menthe à l'élé. C'est pas la prison qui va nous arrêter, c'est la mort ou la femme qui m'a allaité. Allez, je suis un mec du parc, un mec de l'allée. Je fais du mal pour mon but, je le fais à l'aise. Mais quand j'y reprends, je suis mal à l'aise. Ya 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 ya. Des fois, je suis grave indécis. J'avais pas tard dans la nuit, c'est le chétan qui m'a amené danser. J'ai grave avancé, à la rue, je suis grave attaché. Maintenant, c'est moi le grand qui influence les jeunes à bosser. Malheureusement, je sais pas faire semblant d'aimer. L'air aux autres, ça fait longtemps j'abandonnais. Le ciel m'en est témoin, j'ai tant donné. Pour eux, je suis qu'un artiste de la pandémie. On m'a toujours dit respecte les aînés, mais je fais comment quand les aînés c'est des haineux. Je les baisse, je sais pas faire semblant d'aimer. Dans la street, poto, personne m'a parrainé. SDM, sans moi 8. Je suis tout en haut, je suis dans la suite. Je peux tout expliquer sur un hit. Je peux tout expliquer sur un 8. SDM, sans moi 8. Je te dis que je peux tout expliquer sur un hit. Je peux tout expliquer sur un 8. Après les autres, je ne suis qu'un mythe.
Mr. Ocho de SDM, c'est à retrouver donc sur son nouvel album, Le Choix Lina Koudry, ce soir. On vous remercie. Venons-en tout de même au théâtre. D'abord, vous faire écouter une jeune comédienne, 18 ans, à la Comédie Française, interrogée par Jacques Chancel. On est en 74, c'est Isabelle Adjani.
Je ne sais jamais, je vais vous dire dans l'ensemble, je ne sais jamais ce que je ferai, je ne sais jamais si j'aimerais longtemps une chose. Je suis sûre de ce qui existe présentement. Et même si j'ai l'angoisse de l'avenir, je pense pas du tout à une réalisation concrète des choses qui vont venir. Et je sais pas du tout. Pour moi, être au français, pour l'instant, c'est travailler avec certaines personnes. Parce que de toute façon, que je sois dans ce lieu-là ou dans un autre, que ce soit bien ou mal pris, je tiens pas du tout à travailler avec tout le monde. Ça m'intéresse pas. Et puis, avoir l'impression de faire partie d'une troupe, je voudrais bien savoir aussi ce que c'est petit à petit. Peut-être je vais le découvrir.
Très individualiste.
Oui, non.
Vous n'avez confiance qu'en vous.
Oh là là, ce que vous me dites là, c'est terrible, parce que c'est ce que j'essaie de me répéter à longueur de journée pour avoir un peu le courage d'être, de mettre un pied devant l'autre sans me tordre le genou, ce que je fais fréquemment. Oui, je crois que pour que les autres aient confiance en vous et que pour que vous ayez confiance en les autres, il faut avoir confiance en soi. C'est une chose que je suis en train de découvrir. Alors je vous en parle, mais je vous en parle au milieu même de ma découverte.
Isabella Adjani, 18 ans, c'est quand même déjà bien ce qu'elle veut. Où est-ce que vous en êtes, vous, Lina Koudry, de votre découverte?
Ma découverte...
De vous-même.
De moi-même.
Est-ce que vous avez confiance en vous, par exemple, pour reprendre ce que disait Isabella Adjani?
Pour certaines choses, oui. Et pour d'autres, non. Et c'est très aléatoire. Et je me reconnais un peu quand elle dit qu'elle est sûre de ce qui est là présentement, mais que l'avenir... Après, moi, j'aime beaucoup visualiser. Ça me permet de m'accrocher à une branche et de me dire « je veux ça ». Alors, des fois, c'est pas très clair. « Je veux quelque chose hein, ». Mais j'aime bien me dire « l'étape d'après, c'est ça ». Et alors évidemment ce sera pas exactement ça, mais j'aime bien me dire qu'il y a un après, parce que déjà dans ce métier on n'est jamais sûr du lendemain, on sait jamais vraiment, donc j'aime bien quand même avoir un truc auquel me raccrocher,
un horizon.
Ouais.
Et dans le théâtre vous en êtes où?
Dans le théâtre, j'en suis à je joue demain ma première au Bouffe du Nord et je suis très heureuse. Ça fait 5 ans que je suis pas montée sur scène. Et j'aime d'amour, j'aime profondément être au théâtre, être devant un public et défendre un texte, et en plus d'un auteur que j'aime énormément et que je pense que c'est le plus grand dramaturge contemporain. Et je suis très chanceuse de pouvoir travailler avec Pascal Rambert. Donc je voilà, Pascal c'était j'étais fan de Pascal Rambert et de ses textes quand j'étais étudiante, au même titre que j'étais fan d'Adjani, et c'est des gens qui m'ont énormément inspirée. Et là, de pouvoir travailler avec lui aujourd'hui dans un texte où je suis seule en scène, c'est un bonheur, c'est un cadeau.
Alors cadeau, mais cadeau boulot, me semble-t-il, hein, parce que Pascal Rambert, c'est pas rien. Alors c'est pas tout à fait ce qu'il pense, lui. Écoutez-le dans cette émission en octobre 2020.
Moi, je fais un métier, c'est un métier d'interprétation. Je suis pas psychanalyste, mais je fais un métier d'interprétation. Donc, j'interprète du réel, je lui donne une forme, comme disait Antoine, et après, je le donne, je le livre dans le corps, dans la bouche des acteurs, et après, eux, ils l'interprètent. Ce qui fait que je parle d'ailleurs de moins en moins aux acteurs. Et tous, ils me disent, mais t'as pas quelque chose à me dire? J'ai rien à dire, moi. J'ai pas d'idée sur la vie. Je sais pas ce que ça veut. Enfin, je crois pas à la direction d'acteur et tout ça. Par contre, ce que j'écris pour eux, c'est plus que de la direction d'acteur. Ce que j'écris pour eux, c'est plus que tout, jamais aucun metteur en scène pourra leur dire. Et tout est à l'intérieur de ce que j'écris. J'ai pas grand chose à rajouter. Et d'ailleurs, quand je leur donne, les acteurs, pour eux, c'est très clair, très simple. Et la ponctuation, ils peuvent décider de s'arrêter là ou après. D'ailleurs, si on regarde, s'il y a un linguiste ou une linguiste, regardez comment c'est écrit, on peut tout à fait voir qu'en effet, le sens peut se transformer en fonction de où on s'arrête, où on reprend la phrase, où on reprend l'intonation. C'est une proposition de liberté.
Oui, parce que depuis quelques années, Pascal Rambert écrit ses textes sans ponctuation. Mais alors, Lina Koudry, je ne sais pas si c'était très clair, très simple pour vous. Vous allez nous le dire. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti tout d'abord en découvrant ce texte écrit pour vous par Pascal Rambert?
Alors, il n'a pas été écrit pour moi.
Ah bon?
Non, il a été écrit à l'époque où Pascal Rambert avait fait une pièce qui s'appelle Lac pour des élèves de Lausanne, il me semble. Et à l'intérieur de ce groupe, il y avait une jeune fille qui s'appelait Lola. Et il a eu envie d'écrire pour cette fille. Il a écrit Perdre son sac, mais il l'a jamais monté. Et donc Lola l'a monté, elle, de son côté. Et Pascal avait, au moment où il finit d'écrire Perdre son sac, nous, on était en train de faire actrice au Bouffe du Nord, il y a 5 ans. Mmh. Et je crois que c'est né à ce moment-là, cette envie. Et qu'est-ce que je reçois, enfin qu'est-ce que je
qu'est-ce que je ressens ce texte.
Et moi, de toute façon, j'ai un amour fou pour tous les textes de Pascal. Je sais pas, j'ai même pas les mots. J'aime lire ça. Ça me fait du bien. Je trouve ça beau. Je trouve que c'est la vraie beauté. C'est d'ailleurs, je le dis dans mon texte, la beauté de la langue. Mmh. La langue latine. Mmh. Mais c'est la vraie beauté de la langue, Pascal. Avec un vrai rythme. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup Pascal Rambert, sûrement parce que j'aime beaucoup les textes de rap aussi, parce que j'aime les choses rythmées avec du texte. Voilà. Si ça peut être que ça, moi ça me va. Donnez-moi un rythme, donnez-moi du texte. Et j'adore, et je m'éclate. Donc j'adore chanter. Tout à l'heure, on chantait ensemble dans le studio. J'adore quand la langue est tordue. Et je sais pas, j'aime bien mâcher dans les mots. J'aime bien quand la langue est une matière, finalement. Et que ça claque, et que ça... Je sais pas, que c'est dansant, que c'est chantant, que ça casse le rythme, que j'aime bien les ruptures. J'aime bien, en fait... J'aime bien que la langue dépasse juste le sens, finalement.
Mais de ce fait, cette écriture sans ponctuation, parce que quand on lit Perdre son sac, on a 10 pages d'un bloc. Ce que disait Pascal Rambert, c'est vous qui choisissez. Où est-ce qu'il y a une rupture? Où est-ce qu'il y a un temps? Si on enchaîne.
Oui, c'est moi qui choisis. Après, quand c'est un contresens, Pascal va me dire non, à ce moment-là, quand même, il est quand même là. Mais c'est vrai qu'on est.
C'est votre flow.
C'est mon flow. Moi, par exemple, je suis fan absolu d'Audrey Bonnet qui dit du Pascal Rambert, mais c'est son flow. Et je pourrais pas faire du Audrey Bonnet, et pourtant j'adore, mais parce que ça, en fait, ça suit la pensée, et on peut pas se calquer. Et c'est pour ça qu'il dit effectivement, toutes les indications sont dans le jeu. Et il a pas besoin de nous dire grand chose. Si on est fidèle au sens, et que on le dépasse, parce qu'on y met notre rythme, et finalement ça rejoint aussi ce que Marion disait, quand on fait un checker, on essaye de tout digérer et d'essayer de le sortir le plus naturellement possible, comme si c'était nos mots. Et Pascal est très fort pour ça, et très fort pour, quand je dis c'est un cadeau, il nous met des mots dans la bouche qui ressortent encore plus beaux.
Mais quand je disais tout à l'heure, je pensais que Pascal Rambert l'avait écrit pour vous, parce qu'il me semble que ce texte, il vous va bien. Ina Koudry, vous évoquiez tout à l'heure, sans le préciser, mais enfin, vous avez été notamment animatrice dans des MJC, vous avez fait aussi du travail humanitaire au Vietnam, vous êtes engagée dans de nombreuses associations, vous êtes engagée, vous êtes pleinement dans le monde. Dans vos films, ce sont souvent des femmes qui ont des choses à dire aussi, des choses à faire entendre. Et là, on peut dire que dans Perdre son sac, ce personnage, elle a des choses à nous dire, ça c'est sûr. On lui ferme pas la bouche.
Non.
À celle-ci. Vous entrez en scène, vous vous placez comme ça sous cette grande bâche bleue en plastique. Il y a un balai télescopique à la main, il y a une grande salopette, une veste bleue de travail. Vous regardez le public. Qu'est-ce qui se passe dans ces quelques moments avant le premier mot pour vous?
Boule au ventre. Et je me pose pas trop de questions, finalement, en rentrant sur scène, j'y vais. J'y vais parce que sinon, si je reste trop plus d'une minute, j'y vais pas, quoi. donc j'avoue que je me pose pas trop de questions. Je rentre un peu sur scène comme sur un ring de boxe. J'arrive et je me place là et je commence. Et je commence à parler et tout est dans le texte. Mais c'est un peu, moi je dis toujours, Pascal, c'est des vers. Moi j'appelle ça les vers rambériens. Il y a quelque chose de l'ordre de l'alexandrin dans le rythme et dans le cadre. Donc en fait, on est dans un cadre, peu importe l'interprétation qu'on veut, qu'on y met, enfin à quel point on joue finalement. Mais il suffirait de juste dire le texte et ce serait très bien aussi, je crois. C'est ce que je ressens avec les alexandrins, bien sûr qu'il faut de... Mais c'est le texte qui nous ramène, c'est pas nous qui allons chercher l'émotion pour servir le texte, c'est le texte qui nous amène à une certaine émotion de fait.
Il faut dire que vous l'avez créé, ce spectacle, au Théâtre National de Bretagne, au TNB. Donc voilà, l'expérience maintenant du public est là. Et dire aussi qu'il y a deux moments de danse dans ce texte. Alors on parlait de danse avec Ouria. C'est évidemment très différent. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette femme, avec son corps dansant?
Elle dit « lâchez-moi ». Juste avant d'aller danser, elle dit « lâchez-moi, je vais mettre le son très fort et je vais danser ». Et je pense qu'elle pète un câble, hein, on va pas essayer de...
Il faut que ça sorte, quoi.
Faut que ça sorte. Mais moi, j'aime bien ces connexions qui ne sont pas des connexions. En fait, si on, dans la vie, on pense souvent à quelque chose d'un coup comme ça. Voilà, je vais voir votre veste là, je vais dire oh là là, putain merde, faut que je m'achète un truc chez Uniqlo parce que. Mais c'est comme ça la vie. Et elle, c'est que ce qui se passe durant cette heure sur scène, c'est qu'elle fait des connexions entre des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais c'est ça la vraie vie. Et c'est ces moments de réel, comme il dit Pascal, il dit je prends le réel et je le donne aux acteurs, c'est ça. C'est qui permet des moments de réalité présente. C'est vraiment le moment présent. Et chaque mot, chaque soir, vraiment, je me disais, ça va être peut-être un peu redondant, je vais pas retrouver la même véracité que les premiers jours, etc. Mais en fait, finalement, chaque soir, à chaque fois que je dis un texte, ça résonne. Une phrase, ça résonne pas pareil. Ça résonne, mais pas de la même manière. Et chaque soir, c'est différent. Donc, chaque soir est unique. Et donc, en fait, chaque soir est réel.
Spectacle vivant, irremplaçable d'être là. Et alors, dernier mot, mais en quelques mots, Lina Koudry, vous avez parlé de la boule au ventre. Bon, mais c'est quoi la joie d'être seule en scène? Le plaisir d'être seule en scène?
Alors, très sincèrement, je sais pas.
Vous n'y êtes pas encore?
Parce que moi, j'aime beaucoup jouer avec les autres. Et je n'avais connu le théâtre que avec quelqu'un sur scène. J'avais déjà fait des petits monologues, mais c'était pas une heure. Là, peut-être ça va me manquer. Voilà, ça va faire l'effet inverse. Mais pour l'instant, je me dis tous les soirs, c'est quand même mieux quand il y a quelqu'un. Je suis plus rassurée.
Mais pour l'instant, c'est vous, seul, en scène, et donc à partir de demain, au Bouffe du Nord, et jusqu'au 17 février, dans Perdre son sac, ce monologue de Pascal Rambert. Rappelez, dans un peu plus d'un mois, le 15 mars sortira Ouria de Mounia Medour. Après, il y aura Les Trois Mousquetaires, première partie 5 avril, deuxième partie au mois de décembre prochain. Il me reste à vous remercier, Lina Koudry, d'avoir été ce soir notre invitée.
Merci à vous.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Et c'est maintenant l'heure d'Affaires critiques. Bonsoir Lucille Comeau.
Bonsoir Arnaud Laporte.
Ce soir, vous avez lu pour nous une bande dessinée coréenne qui vient d'être traduite en français, Les Daronnes de Yang Shin-ma.
Oui, c'est la première fois qu'il est traduit en français, cet auteur qui a déjà une petite dizaine d'albums derrière lui. Et c'est un très étrange objet, à la fois drôle, cruel, assez malaisant, qui chronique en noir et blanc, dans un style réaliste et dépouillé, la vie d'une femme entre ses 50 et ses 60 ans, So Yeon-li. Alors elle vit à Séoul, dans un petit appartement où elle héberge et nourrit toujours un de ses fils, qui après 30 ans joue aux jeux vidéo et vaguement musicien. Elle travaille pour une société de ménage dans une entreprise où ses collègues se font régulièrement harceler et maltraiter. Mais ce dont l'album parle surtout, c'est de sa vie amoureuse. So Yeon-li est divorcée depuis des années et elle est amoureuse d'un serveur de bar de nuit assez minable et alcoolique. Une relation de plus en plus toxique, mais à laquelle elle ne parvient jamais vraiment à renoncer. Elle discute de tout ça avec ses amis qui, comme elle, se coltinent des maris et des amants impuissants, volages, lâches, profiteurs, parfois tout ça en même temps. Alors, le quotidien de So Yeon-li n'est pas rose, c'est le moins qu'on puisse dire, fait de jours moroses à nettoyer des sanitaires et de nuits sans sommeil à ruiner problèmes d'argent, inquiétudes familiales et peines de cœur. Et l'album montre à quel point tout ça est lié, à quel point le système culturel et politique coréen enferme particulièrement les femmes dans une boucle infernale. De ce point de vue, le flashback initial qui revient en quelques pages sur le passé de So Yeon-li est redoutable d'efficacité et de cruauté. Mariée jeune à un homme qu'elle n'aime pas, elle devient l'esclave de la belle famille, cloîtrée dans l'espace domestique, a plusieurs enfants très tôt dans des conditions difficiles, se retrouve dans la dépendance financière à un homme qui joue. Le récit montre en particulier à quel point la question de l'argent pourrit toute possibilité amoureuse dans une culture où tout se monnaie, où payer un verre en boîte, offrir une soupe dans un restaurant, inviter son amant chez soi est aussi toujours une transaction avantageuse ou désavantageuse.
Bon, bah, trop belle la vie, hein, visiblement, du côté de cette héroïne. Mais pour autant, vous le disiez, Lucille, ce n'est pas désespéré.
Oui, c'est difficile d'ailleurs à décrire, parce que c'est vrai que dit comme ça, c'est horrible. Et en fait, la bande dessinée n'est pas du tout horrible. Déjà parce que So Yeon-li, elle ne lâche pas l'affaire. Elle se bat, littéralement, comme la couverture d'ailleurs de l'album le montre, qui figure en gros plan deux femmes s'empoignant l'une l'autre. Elle se bat avec l'autre maîtresse de son amant dans la rue, donc littéralement. Elle se bat au travail pour contribuer à fonder un syndicat, elle se bat pour que son fils quitte l'appartement. Par ailleurs, elle n'est pas la seule à se battre, hein. Elle existe dans un réseau amical tenu, tissé de sorties en boîte, de messages nocturnes, de confidences permanentes. Dans ce réseau vivace, aucune ne renonce jamais à l'amour et à la sexualité. Ce qui est très émouvant, surtout dans cet objet, c'est son contexte d'écriture. En fait, l'auteur a donné à sa mère, à sa propre mère, un carnet pour qu'elle y verse son quotidien, hein, comme un journal intime. Et c'est de cette matière qu'il a tiré l'album, dans lequel le récit est largement pris en charge à la première personne. Nous sommes au plus près de cette figure maternelle qu'il représente avec son corps de cinquantenaire, en dessous des yeux les traits fins de ses rides. En filigrane se dessine le récit de la relation d'un homme adulte à sa mère, un récit qui se coltine l'intimité féminine en la représentant parfois crûment, dans ce qu'elle a de burlesque, dans ce qu'elle a de tragique aussi. De ce point de vue, c'est vrai que c'est un objet troublant, assez tortueux, un peu malaisant dans ce qu'il dépeint, mais aussi empreint d'une tendresse particulière. Il y a un très beau passage au cœur du livre qui met en scène la protagoniste assistant avec ses amis à un concert de ce fameux fils qui traîne toujours chez elle. Dans un bar, il entonne une chanson en hommage à sa grand-mère qui vient de mourir et l'espace de quelques pages, soudain les cases disparaissent. Et sur la page, de petits dessins grisés miment le souvenir de moments familiaux, un petit garçon qui pleure dans les bras de sa mère, l'enterrement d'un grand-père. Ce passage singulier complexifie le récit en multipliant les points de vue. Les daronnes regardent leurs fils, qui eux-mêmes les regardent. Il faut bien ça pour qu'on puisse comprendre comment elles vivent.
Les daronnes, c'est donc le titre de ce roman graphique de Yang Shin Ma, paru chez Atrabile dans une traduction de Yeon Lee. Merci beaucoup, Lucille Como. Affaire en cours maintenant à Marie Sorbier. Bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir, vous nous emmenez, la chance, au palais idéal du facteur cheval.
Oui, dans le petit village d'Autrive, dans la Drôme, Ferdinand Cheval, facteur de profession, a bâti pendant 33 ans un palais en ramassant chaque jour lors de ses tournées des pierres, des petits cailloux qui lui évoquaient tantôt un animal, tantôt une forme surréaliste. Alors, ouvert à la visite en 1905 par l'artiste lui-même, André Malraux décide le classement du palais en monument historique en 1969, car il le reconnaît comme le seul exemple d'architecture naïve, donnant ainsi raison à Breton, Picasso ou encore Niki de Saint-Phalle, qui vouaient une admiration sans borne au facteur cheval. Aujourd'hui, le palais idéal continue à fasciner les artistes contemporains et je suis allée en parler avec Frédéric Legros. Frédéric Legros, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur du palais idéal du facteur cheval, qui depuis votre arrivée a institué la présence de l'art contemporain dans les murs du palais. Alors ce monument historique a comme particularité d'avoir été ouvert et visité du vivant du facteur cheval. Alors est-ce que c'est ce lien à l'artiste vivant que vous cherchez à faire perdurer en proposant des expositions alors de Jean-Michel Autoniel il y a quelques mois à Martine Abalia aujourd'hui?
Oui, c'est en fait un lieu qui a toujours parlé aux artistes. Les plus grands sont venus visiter ce lieu depuis les années 30. Et c'est vrai que le facteur cheval le faisait visiter lui-même et faisait même des sortes de performances en l'activant avec l'eau, en faisant des visites. Voilà, et donc c'est vraiment un lieu pour les artistes. Et j'avais cette envie très forte de continuer ce dialogue et de même de l'accentuer en proposant des invitations, des cartes blanches aux artistes qui sont amenés à dialoguer avec ce lieu. Et c'est aussi une façon d'éclairer différemment l'histoire du palais idéal et ce qu'il est.
Alors c'est une œuvre qui a beaucoup eu d'impact, vous le disiez, sur les artistes alors du début du XXe siècle. Est-ce que vous constatez chez les artistes contemporains d'aujourd'hui toujours une influence du facteur cheval?
Oui, il est... Laure Prouveau l'avait mis à l'honneur lors d'une biennale de Venise. C'est vrai que il y a des artistes qui s'en inspirent toujours directement ou suite à des invitations. Et c'est un lieu qui est presque un lieu de pèlerinage pour tous. Je me rappelle Christian Boltanski, il me parlait de la place du village parce que il connaissait cet endroit par cœur, il connaissait Autrive par cœur parce qu'il venait au Palais Idéal. Et ils sont nombreux, comme lui, à être venus. C'est vraiment toujours un lieu qui parle aux artistes et qui est toujours d'une grande actualité. C'est ça qui est troublant et aussi magique avec cet endroit, c'est que les messages du facteur cheval sont toujours d'une grande actualité. Quand il écrit sur une des parois « Pour les hommes de bien, tous les peuples sont frères, notre devise à nous est de les aimer tous », mais forcément, ça vient parler à tout le monde et ça a toujours un écho. Et c'est beau de pouvoir montrer ça de façon différente au travers, mais effectivement, du regard de Martina Balea, du regard de Jean-Michel Autoniel ou Timone Fatal. Enfin, voilà.
Comment vous l'expliquez que des artistes d'aujourd'hui soient toujours fascinés par ce lieu et par le travail de ce facteur cheval ?
Je pense qu'il y a l'élan pur de création. Ça, c'est quelque chose qui marque beaucoup les artistes. C'est vrai que Ferdinand Cheval était porté par son rêve. Il a été porté pendant 33 ans à concevoir son œuvre après son travail, après sa tournée de facteurs qui était déjà en soi une épreuve physique. Et il continuait à concevoir son œuvre parce que il voulait laisser une trace, il voulait créer quelque chose d'extraordinaire, ce qu'il a fait d'ailleurs, et c'est ce qui vient beaucoup les marquer. Après, par exemple, il y a Fabrice Hibert aussi qui disait quelque chose qui est assez juste, c'est que c'est un lieu conçu entièrement par un artiste, et que de plus en plus, les ateliers d'artistes sont en train de s'ouvrir au public. Il y a cette dimension-là du lieu de l'artiste, où est-ce qu'il vit, comment il amène à visiter les choses, à découvrir des choses, et le facteur, lui, il l'a fait dès 1905, et pour le coup, il pense même à comment on visite son palais, dans quel ordre, et comment l'activer avec ses fontaines, avec ses jeux d'eau. Donc ça aussi, ça vient résonner très fort chez les artistes contemporains.
On a beaucoup d'idées fausses sur ce facteur cheval. Alors je pense qu'il cristallise un certain nombre de fantasmes. Mais en arrivant ici, on déconstruit un peu ce mythe de l'artiste fou et on découvre une pensée, ou en tout cas une planification de ce projet.
Oui, le palais a été entièrement pensé. Alors, il a d'abord été rêvé par le facteur cheval pendant un certain nombre d'années, pendant quasiment 10 ans, avant qu'il se lance vraiment dans sa construction. Et il fait des dessins, il fait des schémas, il sait véritablement là où il va. Et au travers de ses lectures, il découvre différents éléments, différents pays, différents animaux. Et il les reconstruit, il les montre à voir dans son palais, puisqu'il faut vraiment voir aussi le palais comme un petit musée du monde. C'est le musée imaginaire du facteur cheval, hein. Et il y a, sans parler d'une volonté pédagogique, il y a quand même une volonté de partager et de transmettre. Par exemple, quand il sculpte une autruche, il écrit « autruche » dessus. À cette époque-là, il n'y a pas beaucoup d'autruches qui sont venues à Haute-Rive et les gens ne savent pas ce que c'est. De la même façon, quand ils marquent Templin Doux ou Maison Carrée d'Alger, c'est aussi montrer qu'est-ce qui existe à l'extérieur et à quoi ça ressemble.
Pourtant, il n'a jamais voyagé, cet homme-là. Il est resté dans sa région.
Tout à fait. Il a voyagé dans sa tête, on va dire. Il était très curieux, il lisait beaucoup. Et ça aussi, c'est assez fantastique parce que le palais idéal, ce n'est pas un carnet de voyage, c'est vraiment un carnet de l'imaginaire. Et c'est un désir d'ailleurs. Et c'était véritablement pour lui une volonté de rassembler toutes les cultures, de rassembler tous les peuples, toutes les religions sont représentées aussi dans le palais. Et elles viennent vivre ensemble. Ça aussi, c'est très contemporain. Et il y a ce message très fort du facteur cheval. Mais aussi, vraiment, montrer ce qu'il a pu découvrir dans les livres, alors qu'il n'a effectivement pas voyagé plus loin que Lyon.
Ce qui est très beau aussi, et ce qui relève d'un geste artistique, c'est que vous disiez que la forme lui vient de la forme de la pierre qu'il trouve, en fait. Hein, l'objet, le matériau est premier.
Tout à fait. C'est des pierres qu'il repère sur le long de sa tournée, le long du chemin, et dans lequel il perçoit une forme. Alors, un certain amas de roches va lui faire penser à un lion, et avec de la chaux, il va rajouter des pattes, et le lion va surgir. Il fait ça pour tout. Le palais vient grandir comme ça, de formes dans lesquelles il perçoit quelque chose. Il y a même des pierres qui sont laissées quasiment brutes et qui représentent soit une tortue, soit un bœuf. Voilà, mais qu'il voit le long de son chemin. Et l'observation de la nature, il y a à la fois le savoir qu'il puise dans les livres et dans les magazines illustrés de l'époque. Il y a bon nombre de références locales, mais il y a aussi toute l'observation de la nature. Et c'est même cette observation de la nature qui va l'amener à utiliser des barres en métal et de les enduire de chaux et qui en font une sorte de précurseur du béton armé. Donc voilà, c'est effectivement un génie et c'est peut-être pas assez dit.
6 photographies inédites de Doramar viennent de rejoindre les collections permanentes du Palais et l'installation de Martine Abalea se visite jusqu'au 28 mars. Merci beaucoup Frédéric Legros.
Et merci à vous Marie Sorbier. « Comme chaque lundi, nous partons à l'étranger, direction l'Espagne ce soir, où se trouve le correspondant de Radio France, Mathieu de Taillac. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Arnaud.
Mathieu, vous nous avez alerté à propos d'une information culturelle liée à l'intelligence artificielle. Alors on sait que les créateurs sont parfois méfiants vis-à-vis de cette technologie, ils ont souvent de bonnes raisons pour cela, notamment la crainte du pillage de leur création. Mais cette fois-ci, c'est une belle histoire que vous allez nous raconter. Un programme d'intelligence artificielle a permis d'identifier une pièce de théâtre vieille de 4 siècles et de l'attribuer rien de moins qu'à Lope de Vega, l'un des grands représentants du siècle d'or espagnol. Alors, il faut nous raconter, Mathieu, comment a procédé cette intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle a fait qu'un bon lecteur ou un spécialiste n'aurait pas pu faire?
Alors, en réalité, il y a deux opérations faites par deux programmes informatiques qui permettent de faire gagner énormément de temps aux chercheurs humains qui sont derrière l'opération. Transcrire les œuvres d'abord et ensuite identifier l'auteur. Transcrire les œuvres, ça peut paraître idiot, mais on parle de manuscrits conservés par la Bibliothèque Nationale d'Espagne, la BNE. Et la BNE a un fonds très riche, elle conserve 85 000 manuscrits. La responsable précisément des manuscrits de la bibliothèque avec qui j'ai pu parler, Maria José Rufio, me disait que, attention, ce ne sont pas tous des livres, ça peut aussi être des carnets, parfois une simple page, une description d'un lieu, une petite biographie d'un roi. Mais bon, 85 000 manuscrits au total, dont 11 000 pièces de théâtre, et ça c'est unique au monde, c'est une grande richesse de la Bibliothèque Nationale d'Espagne. Là-dessus, 1300 pièces de théâtre du siècle d'or, du siglo de oro, ont été sélectionnées pour être retranscrites par un logiciel. Donc, tout simplement, le programme reconnaît les lettres et les mots écrits à la main et les passe à l'écran. Eh bien, cette première étape qui n'a l'air de rien, si on la fait à la main, si j'ose dire, si ce sont des humains qui lisent les manuscrits et qui les tapent sur l'ordinateur, eh bien, ça prend plusieurs années, alors que là, le logiciel l'a fait en quelques heures.
Oui, effectivement, Mathieu, on comprend que l'intelligence artificielle a évité ce travail donc extrêmement fastidieux, a accéléré les chose, mais vous nous avez parlé d'une deuxième tâche faite par l'ordinateur un peu plus impressionnante, parce qu'il s'agit là, en l'occurrence, d'interpréter, carrément de reconnaître le style d'un auteur, c'est bien cela ?
Oui, et ça c'est probablement le plus innovant, peut-être aussi pour certains le plus inquiétant. Je vais vous expliquer le plus simplement possible ce que fait l'intelligence artificielle, sur instruction bien sûr de chercheurs. Ces chercheurs, ils sont deux, Álvaro Cuellar de l'Université de Vienne et Germán Vega García Luengos, lui professeur de littérature à l'Université de Valladolid, j'ai pu l'avoir au téléphone, et il m'a expliqué qu'ils ont demandé à un programme spécialisé de relever les 500 mots les plus employés dans chaque texte. Et une fois qu'on a ces données, on demande au programme de comparer ces textes d'auteurs inconnus à des textes dont on connaît les auteurs. Et là, c'est là que l'intelligence artificielle nous indique qu'il y a de fortes probabilités que le texte corresponde à tel ou tel auteur. En l'occurrence, que La Francesa Laura, la Française l'or, doit être une œuvre de Lope de Vega.
Alors, pour mieux comprendre, Mathieu, ce qu'il faut que savoir que donc dans ces 500 mots les plus utilisés, on retrouve quoi? Des sujets qui inspirent habituellement Lope de Vega? L'amour, l'aventure, les capes et l'épée?
Non, excusez-moi, Arnaud, mais vous n'y êtes pas du tout. C'est beaucoup moins poétique que cela. Dans les 500 mots, il y a surtout des articles, des prépositions, des connecteurs. Le mot le plus utilisé, me disait par exemple le professeur Vega García Luengos, c'est la préposition « à », qui ressemble beaucoup à notre « à » en français. Bon, en l'occurrence, en espagnol, c'est sans accent grave. Ben, figurez-vous que ces 500 petits mots, c'est « à », c'est « le », c'est « là », c'est « les », c'est « mais où va donc Ornicar », ces mots-là, ou plutôt leur fréquence d'utilisation, eh bien, ça varie énormément d'un locuteur à l'autre. On n'a pas, vous et moi, la même façon de les employer. Ça varie au point que l'on peut différencier le style d'un auteur du style d'un autre.
Enfin, c'est quand même très étonnant ce que vous nous racontez, Mathieu, parce que le style, c'est quand même autre chose que des articles, des prépositions. Qu'est-ce que vous faites? Des métaphores, des sonorités, des champs lexicaux, des registres, des dialogues, des descriptions, quoi?
Alors, je n'oublie rien de tout cela, mais ça, c'est, disons, l'étape d'après. Et ça va peut-être vous rassurer, mais c'est l'étape des humains. Une fois que l'ordinateur a désigné le texte comme étant probablement de Lope de Vega, nos deux spécialistes ont appliqué leur boîte à outils à eux, une boîte à outils analogique, me disait Germán Vega, pour confirmer l'hypothèse émise par la machine. Et là, effectivement, ils se sont intéressés à l'orthographe, à la grammaire, au vers, à la prononciation même, parce qu'on peut la retrouver grâce aux rimes. Et ils ont démontré, article dans une revue spécialisée à l'appui, qu'on était bien devant un écrit de Lope de Vega.
Donc, ce qui veut dire que l'homme n'a pas encore tout à fait perdu la partie face à la machine. Mathieu, mais une dernière question, elle parle de quoi, cette pièce de théâtre? C'est une bonne œuvre, si on peut dire, Laura La Francesca?
Alors, je ne vais pas vous mentir, hein, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire ce texte, écrit à la main, et puis quand même dans un espagnol du XVIIe siècle. Le professeur Bega García Luengos, lui, a eu le temps de le lire. Il me dit que c'est, sans être un chef-d'œuvre du niveau d'un Fuente Obenjuna, par exemple, c'est tout de même un livre de bonne facture. Laura, alors, en question, c'est la fille du duc de Bretagne, dont tombe amoureux le dauphin de France. Ça provoque la jalousie maladive du mari, qui planifie même son assassinat. Je vous raconte pas la fin, on va pas spoiler une œuvre écrite il y a 400 ans. Ce sont les sujets classiques hein, du siècle d'or, l'amour, la jalousie, l'honneur. Et ça va sortir dans quelques mois chez un éditeur espagnol.
Ne divulgage pas en effet, on souhaite à ce cher Lope un grand succès public pour cette œuvre posthume de 4 siècles. On espère que l'attente aura valu le coup, mais vous nous raconterez ça bientôt Mathieu ?
Ah oui, bah avec plaisir Arnaud.
Toujours notre correspondant de France Culture, de Radio France en Espagne. Donc, on vous fera lire et nous faire le compte-rendu. Merci Mathieu Taillac. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Comeau, Marie Sorbier et Lise Ripoche.